je suis blanche. Mes cheveux sont blonds, ma coiffeuse n'y est pas complètement pour rien, mais presque. Mes yeux sont bleus, ma coiffeuse n'y est pour rien, à ma connaissance. Certes, aucun de mes parents n'est né en France, mais je pourrais physiquement passer pour plus gauloise qu'un accessoire sur une pochette d'album de Gainsbourg. Et comme si quelqu'un allait potentiellement en douter, mes parents m'ont octroyé un deuxième prénom sans équivoque, Blanche. Rebecca Blanche, donc. Je suis blanche. La réalité n'est évidemment pas aussi simple. Certaines consoeurs activistes m'ont ainsi fait remarquer que, du fait de ma judéité, je n'étais pas complètement blanche bien que je ressemble à une blanche. C'est ce qu'on appelle dans le langage militant anglo-saxon du white passing. C'est vrai, mais j'ai toujours bénéficié des privilèges accordés aux blanches. Peut-être un peu moins que Marion Dupont, mais ce n'est pas le sujet. Je bénéficie d'un large espace d'expression, d'un accès à un réseau important, je n'ai aucune peur d'être tuée lors d'un contrôle d'identité. Je ne me suis d'ailleurs jamais fait contrôler. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. En tant que femme blanche, ou passant pour blanche, je dois parler du féminisme blanc. Un féminisme centré sur les revendications des femmes blanches, et qui les présente comme universelles. Le féminisme blanc est un féminisme inutile. Edo Lodge précise que s'il y avait une révolution menée, et gagnée, par les féministes blanches, cela ne changerait pas grand-chose dans notre société. Il peut néanmoins s'avérer dangereux quand ces idées dominent, présentées comme universelles, et sont appliquées à toutes les femmes. C'est un problème, car nous considérons l'humanité à travers le prisme de la blanchité. Cela explique d'ailleurs en partie pourquoi l'actrice blanche Felicity Huffman a été condamnée à un mois de prison pour avoir offert des pots de vin de dizaines de milliers de dollars pour assurer une entrée à l'université à son enfant alors qu'une autre mère, noire, et sans abri a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir inscrit son fils à une école en dehors de son district. Deux poids, deux mesures. Les femmes blanches sont plus proches des espaces de pouvoir que les personnes racisées. Elles sont mariées avec eux, elles ont des enfants avec eux, et les élèves, elles vont dans les mêmes écoles qu'eux, elles partagent les mêmes repas du dimanche. Et si elles sont savamment écartées du cœur du pouvoir, elles maîtrisent néanmoins parfaitement les codes de la périphérie. Cela explique en partie leur soutien indéfectible aux politiques conservatrices, patriarcales, et racistes dans le monde anglo-saxon. 53% des femmes blanches ont voté pour Donald Trump. Elles ont privilégié un vote lié à la peur des autres à un vote sororal. L'actuel président américain étant un agresseur sexuel notoire. Si je ne parle pas de la France, ce n'est malheureusement pas, parce que nous vivons dans une société où le racisme n'existe pas, malgré la fabuleuse campagne « Touche pas à mon pote ». Mais, parce qu'il n'existe pas de statistiques permettant d'affirmer que les femmes blanches privilégient la solidarité blanche à la sororité. En somme, elles trouvent du pouvoir, et des privilèges dans leurs relations avec les hommes blancs, et permettent ainsi de conserver le status quo, comme le précise la journaliste américaine Marjon Carlos en se référant à l'essayiste Robin DiAngelo. Ne nous arrêtons pas aux femmes conservatrices. Ce constat est le même pour les femmes qui se disent progressistes. Dans le même article, Marjon Carlos rappelle que la réalisatrice de la série Girls, Lena Dunham, a soutenu publiquement un de ses collègues blancs accusé de viol par Aurora Mill, une actrice racisée. Si le féminisme comprend ce qu'est le patriarcat, commence l'essayiste anglaise Rainier Edo Lodge, il est important de se demander pourquoi tant de féministes ont du mal à comprendre la blanchité comme structure politique de la même manière. C'est bien beau de citer Beyoncé, de prôner l'égalité, de clamer haut et fort qu'on veut une Alexandria Ocasio-Cortez en France, mais ce n'est pas suffisant. Dans un message adressé aux femmes blanches, la comédienne et co-hôtesse du podcast Two Dope Queens, également citée par Marjon Carlos, est sans équivoque. Vous devez faire mieux. Parlez à vos amis, à vos tassis, désolé pour la traduction hasardeuse de Anti, et vos sœurs. Fait partie de la solution au lieu de dire c'était pas moi, style Shaggy. Réparez. Ce gâchis. Maintenant, les femmes blanches peuvent choisir d'être alliées d'un système patriarcal en centrant leur lutte sur leurs propres problèmes, et en les présentant comme universelles, ou elles peuvent choisir d'être complices, de se mettre en danger, là où d'autres personnes n'ont pas de choix de se battre. Cela veut dire soutenir médiatiquement, et financièrement les femmes, toutes les femmes, même, lorsque cela implique des choix qu'on ne ferait pas pour soi-même. Big up aux militantes féministes qui ont fait cet été une action dans une piscine du 11e arrondissement de Paris pour s'y baigner comme elles le veulent. Cela implique de s'instruire sur les luttes antiracistes par soi-même. Ce n'est pas le moment de se sentir fragile, de verser des larmes, ou de sortir un hashtag #NotAllFemmesBlanches. C'est le moment de lire des livres. Le racisme est un problème de blanc, de Rainier Edo Lodge, ou encore. Pourquoi c'est si dur pour les personnes blanches de parler de racisme, de Robin DiAngelo. C'est le moment de prendre conscience de ses privilèges, et de remettre en cause ses préjugés. C'est le moment de mettre en pratique cette sororité dont on parle tant.